J'étais au menton comme ça. Oula, ouais, il faudra. J'ai déjà une voix qui porte. Hein. Imaginez, j'ai rendu témoignage place cathédrale sans micro. Hein. Et il y avait assez bien de monde et tout le monde m'entendait. Hein. Pour ça d'ailleurs que je fais le guide en Israël, hein, parce que j'ai une voix qui porte. Alors comme je disais, c'est une responsabilité, une joie que de pouvoir parler de celui qui fait ma joie de vivre. Et je vais parler de ma nouvelle vie en Jésus, donc il y a à peu près 49 ans, où j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mais j'avais à peu près 22 ans et demi, mais depuis l'âge de 10 ans, j'ai fréquenté des milieux évangéliques. Différentes églises, des églises italiennes, et puis églises francophones. Et j'ai entendu parler de l'amour de Dieu. Et vous savez, je compare ça. Une fois, je suis allé dans une classe d'université. Hein, donc, et il y avait un professeur d'université qui parlait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce que c'est, parce que tout passait au-dessus de ma tête, donc je n'ai rien capté, tellement c'était au-delà de ma compréhension. Et bien souvent, quand on vient à l'église, on peut venir comme sympathisant, comme on accompagne les parents ou bien on accompagne des amis, mais on vient et ça passe au-dessus de notre tête, ça ne touche pas le cœur. Parce que le jour où ça touche le cœur, eh bien là, on a une transformation intérieure qui se fait. Et c'est une transformation que seul le Seigneur peut faire. Mais je ne vais pas anticiper. On va lire un texte qui est dans 2... C'est 1 Timothée, pardon, j'ai écrit 2 Timothée. C'est 1 Timothée. Au chapitre 2, non, 1 Timothée 2... 1 à 7. Et voilà ce qui est écrit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, parce qu'il a été chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alors, j'ai été surpris. Bon, c'est des passages que je connais, puisque je l'ai lu depuis l'âge de 10 ans. Donc, vous imaginez, hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 71 ans. Donc, ça fait 61 ans que je vivote dans les pages de la Bible. Et l'apôtre Paul m'a rappelé, quand j'ai préparé ceci, il m'a rappelé que je dois faire des prières avec des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et dans cela, il met les rois, les présidents, les ministres, premiers ministres, etc. Je vais poser une question piège. Hein. Quand est-ce la dernière fois que vous avez prié pour les autorités belges? Comment? Lundi dernier. Donc, depuis lundi, tu n'as plus prié pour ça. Bon, ça c'est... Je laisse la responsabilité parce que moi, je ne le fais pas souvent non plus. Mais le Seigneur nous demande de le faire avec des supplications. Alors, on voit les images à la télévision. Hein. On voit les images de Venezuela. On voit des images d'un peu partout, hein. Même à Jérusalem, avec tout ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui prient pour les autorités de leur pays. Mais le diable est aussi là. Hein? Le diable a ses adeptes. Et tous ses adeptes, ce sont ceux qui font des manifestations contre l'État établi par Dieu. Même si un ministre ou un roi ou un président n'est pas à la hauteur de sa tâche, sachez que ce sont les gens qui l'ont placé là et que c'est par la volonté de Dieu qu'il a été choisi pour rendre la justice. S'il ne le fait pas, honte à lui, parce qu'il devra rendre compte à Dieu pour son ministère, hein, son ministère de roi, de président, de gouvernant. Mais ce n'est pas le sujet de la prédication, parce qu'il dit que prier pour le roi, cela est bon et agréable devant Dieu, qui est notre sauveur. Et ce Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Paul exhorte à le faire constamment, avec action de grâce. Action de grâce, ça veut dire « Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire. Je te remercie parce que tu entends ma prière et que tu veux répondre. » Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais sauvés de quoi? Alors ici, je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore pris de décision pour le Seigneur, mais aussi pour ceux qui ont pris une décision pour qu'il y ait un nouvel engagement. Je me rappelle, dans les années 73, donc, je suis allé à Londres pour un congrès, et pendant le congrès, le prédicateur a demandé que tous ceux qui avaient donné leur cœur au Seigneur, qui s'étaient engagés à suivre le Seigneur, le fassent de nouveau et se réengagent, reprennent un engagement devant le Seigneur. Alors, la prédication va avoir deux terrains. Hein, le terrain de ceux qui sont déjà chrétiens et qui voudraient se reconsacrer au Seigneur, et le terrain de ceux qui viennent d'accepter, qui n'ont pas encore accepté, qui sont indécis. Et ils vont voir que le Seigneur a un plan pour chacun. La Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez dire, moi, je suis dans un home, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme péché? Moi, je suis adolescent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme péché? Moi, on a plein d'excuses. Mais qu'est-ce que le péché? Alors, chacun sait ce que c'est, hein. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un enfant à désobéir. Il apprend tout seul. Dès qu'il y a un règlement, il y a toujours quelque chose pour aller contre. Quand il y a une loi, il y a toujours des gens qui vont... Hein. Quand on fait un programme d'ordinateur, il y a toujours des crackers. Hein. Et les crackers, moi j'aime bien les crackers, hein, mais pas les crackers. Hein. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous devions aller toujours dans la direction que le Seigneur veut nous montrer. Un jour, il y a un monsieur bien nanti, bien riche, qui décide de partir en voyage et il confie sa maison à son serviteur. Et il lui dit, voilà, tu peux utiliser tout ce qu'il y a dans mes frigos, dans mes congélateurs, dans ma cave à vin, ma cave à champagne, tu peux prendre tout, tu invites tes copains, etc. Tu peux faire la fiesta autant que tu veux, jusqu'à ce que je revienne. Et le serviteur, il dit, patron, c'est sérieux? Oui, oui, il dit, écoute, mais seulement, il y a juste une chose que je te demande de ne pas faire. Sur la cheminée, il y a une petite boîte d'allumettes. Je te demande de ne pas y toucher. Ouh, patron, tu me donnes tout. Je ne vais pas aller toucher ça, hein. Et voilà le patron qui part, et il fait son voyage, et un certain temps après, peut-être longtemps après, il rentre de voyage, et il demande des comptes à son serviteur, il dit, ça a été les barbecues, etc. Il dit, patron, écoutez, on s'est éclaté, on a pris du champagne, ben t'as bien fait, on a pris du vin millésimé, on a pris tout ce qu'il fallait, ouais, ben je t'avais dit que tu pouvais. Et alors le patron va sur la cheminée, et il prend la boîte. Il fait, tu as touché à la boîte? Patron, Tu m'as donné tout. Je n'ai pas touché à la boîte. Il dit, menteur.
Il dit, patron.
Oui, oui, j'avais mis une mouche dedans. Et quand il a ouvert la boîte, la mouche s'est envolée, donc la mouche n'était plus dedans. La convoitise, on n'a jamais assez de ce qu'on a. Hein. On veut toujours plus. Et toujours plus, c'est la ruine de la personne. Donc, Dieu veut nous sauver de notre péché, de notre envie d'avoir quelque chose qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est chacun sait de quoi on parle. Hein. On n'a pas besoin de faire de petits dessins parce que Dieu est en train de voir votre cœur et il sait que vous êtes en train de vous examiner, de dire, tiens, il y a cette partie-là de ma vie qui n'est pas en ordre, etc. Dieu veut nous sauver. Et pour cela, il avait un plan. Et ce plan, c'est que quand Adam et Ève ont péché, qu'ils ont désobéi, il y a eu une cassure qui a été faite entre Dieu et l'homme. Et cette cassure, c'est un vide que personne ne peut remplir, sinon Dieu lui seul. Il y a un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal, il a écrit une chose, c'est une phrase que j'ai toujours retenue, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. » Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Dieu, c'est la vie. Et l'homme, par la séparation de Dieu, est tombé dans la mort éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et figurez-vous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus sur la terre pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, ce sont des versets, je crois que c'est un des premiers versets qu'on apprend, hein, Jean 3,16. Mais on n'apprend pas Jean 3,36, hein, qui dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu, c'est qu'il a offert Jésus, il s'est offert lui sur la croix, où Jésus a dit « Tout est accompli ». Le péché avait été payé, il avait été pris sur la croix par Jésus, et Jésus avait payé le prix qu'il fallait pour nous réconcilier avec Dieu. Et dans l'épître de Pierre, il est écrit qu'il nous a transporté de la mort à la vie, afin que nous ayons cette vie éternelle. Je crois que c'est important que la vérité que Jésus a dite, ce n'est pas seulement une vérité scripturaire, ce n'est pas seulement une écriture qui a été faite en grec, en araméen, en n'importe quoi. C'est quelque chose qui est écrit dans notre cœur. Savez-vous que même les inconvertis, je mets inconvertis, hein, la Bible dit une chose dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée qu'il existe. Si même vous dites Dieu n'existe pas, le livre des Proverbes dit qu'il n'y a que le fou qui dit que Dieu n'existe pas. On n'a qu'à regarder à l'extérieur et on verrait que Dieu est dans toutes choses. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée qu'il existe. Même si les personnes disent, Dieu, pourquoi faire? Il n'existe pas. Parce que quand on regarde avec le plus grand télescope, on voit toujours des étoiles plus loin. Et on a chanté tout à l'heure que Dieu connaît même le nom des plus grandes et plus lointaines étoiles. Quand on leur donne un nom, c'est déjà le nom que Dieu avait donné. Je crois que nous perdons de vue que Dieu est proche. Il a créé toutes choses, mais il a créé son amour dans notre cœur. Et il veut que nous apprenions à dépendre de lui. Et pour cela, il faut que nous acceptions que le Seigneur soit notre maître, qu'il soit notre Seigneur, notre Sauveur. Et il ne peut pas être le sauveur uniquement, il veut être le Seigneur, il veut que notre vie entière lui appartienne. Et ça, c'est quelque chose de tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit dire, Seigneur, je me tiens devant toi et je veux t'offrir ma vie. Je veux t'offrir tout ce que j'ai. Tout ce que tu vas me donner pendant cette journée, je veux que cela dépende de toi. Excusez-moi. Je veux que tout ce que je vais avoir, que ce soit le bien comme le mal, vous savez, dans une journée, il y a des cas qui se présentent où ça va bien, des cas où ça ne va pas. Ça peut être au travail, à la maison. Ça peut être des relations avec les gens. Mais tout ça est important, il faut que nous le remettions au pied de la croix. L'apôtre Paul dit, non, l'apôtre Pierre, pardon, je me trompe d'apôtre, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. S'il y a quelque chose que vous pensez que le Seigneur n'est pas puissancé pour prendre, dites, Seigneur, aide-moi dans ma méconnaissance de toi. Je chante partout que tu es puissant et tu ne serais pas puissant pour prendre ce qui me tracasse. Mais où est-ce que je suis? Pas où est-ce que tu es. Où est-ce que j'en suis? Seigneur, je veux te remettre toutes choses. Seigneur, je veux que ma vie t'appartienne. Je veux être sauvé. Sauvé du péché qui m'entoure. Du péché qui est là comme un boulet et que je traîne journellement. Vous savez, j'ai souvent l'occasion d'aller dans des centres psychiatriques. Pas pour moi, hein. Quoique quelquefois, ça ne me ferait pas du tort d'aller me reposer. Mais on est là dans un centre où les gens ont perdu tout sens d'équilibre, tout sens de logique. Et vous voyez des gens qui sont là, qui marchent. On ne sait pas s'ils marchent, s'ils volent. C'est parce qu'ils sont légers, ils sont légers. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que ceux qui lui font confiance, qui lui appartiennent, soient heureux de vivre jour après jour. Et il n'y a pas de moment mis à part pour Dieu, parce que Dieu est là présent à chaque moment de notre vie. Alors la question, ce serait, veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé dans ta décision de renouveler ton engagement envers le Seigneur? Il y a des textes qui sont terribles de la part de la bouche de Jésus. Hein. Jésus dit, celui qui met les mains à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est pas propre, n'est pas digne du royaume des cieux. C'est dur, hein? Si quelqu'un met les mains à la charrue, donc c'est pour aller de l'avant, parce que le sillon se fait en avant, et qui regarde en arrière, eh bien, il est comme la femme de Lot, qui a été transformée en sel, statue de sel. Est-ce que nous voulons revoir notre vie passée? Est-ce que nous voulons revivre notre vie passée? Pour moi, écoutez, j'ai donné assez. Je n'ai pas été un bandit, je n'ai pas été malhonnête, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais jusqu'à ma conversion. Après, c'était l'affaire de Dieu. Il a changé ma vie. C'est Jésus, hein, qui a changé ma vie, c'est Jésus. Et depuis que cette transformation a été faite, je peux dire, je suis sauvé pour l'éternité. J'ai la vie éternelle. Alors, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, des chrétiens, hein, ils m'ont dit, mais tu es vraiment un peu présomptueux. J'ai dit, présomptueux de quoi? Jésus dit, celui qui a le Fils a la vie. Il ne dit pas, il aura peut-être. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. J'ai accepté Jésus, j'ai la vie éternelle. Je ne vois pas où est le problème. Alors, si vous avez accepté le Seigneur, la marche de la vie avec le Seigneur, c'est tout à fait différent que d'accepter le moment où on accepte le Seigneur. Quand on accepte le Seigneur, c'est qu'on a entendu Jésus qui frappe à la porte du cœur. Le jour où j'ai reconnu Dieu comme mon Père, oh, je n'étais pas dans une grande réunion, j'étais sur mon lit, en train de lire un livre. J'ai fermé les pages du livre et j'ai dit, Seigneur, je te connais, je sais qui tu es, mais je ne t'ai pas accepté comme mon Père. Et ce jour-là, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et il a tout transformé. Oh, vous savez, il y a des gens qui pensent que si elles ne sont pas très belles, quand ils acceptent le Seigneur, ils vont devenir une plus belle créature. C'est l'intérieur qui compte. Hein? Il y a des personnes qui ont des vies mauvaises. Quand on a eu l'occasion d'aller comme aumônier à la prison, on voit ces vies transformées. Hein? Et ici, j'avais voulu faire quelque chose à la prison Plantin, mais on ne m'a pas donné l'occasion de le faire. C'était quelque chose qui se passe dans les pays sud-américains, où des pasteurs vont dans les prisons et prêchent la conversion et le changement radical de vie. Et là, il y a des centaines de personnes qui viennent devant et qui se mettent à genoux et qui demandent pardon pour leurs péchés, pour tout ce qu'ils ont fait. C'est vrai que, bon, ils sont condamnés pour ce qu'ils ont fait. Mais Dieu efface le péché. Il efface toute mauvaise action dans la vie. Il transforme. Je vais vous raconter cela parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais aumônier à la prison. Il y avait un jeune, je crois qu'il devait avoir 23, 24 ans. Et il était la terreur des surveillants. Alors chaque fois que les surveillants ouvraient la porte, il se demandait ce qui allait arriver. C'était, je dis, 23, 24 ans, il avait des biceps. Il parvenait sur une journée à faire 800 pompes. Bon, c'est pas rien. Hein? Et c'était un baraqué. Et puis, je suis allé, moi, dans sa cellule et je lui ai parlé du Seigneur, de l'amour du Seigneur, de la transformation que le Seigneur pouvait faire dans la vie. Et il a accepté cette transformation. Et je lui ai dit, écoute, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, dit « Ne te venge pas toi-même, mais laisse le Seigneur agir dans ton cœur. » Parce que si tu changes, tu vas voir comme des charbons ardents sur la tête de ceux qui t'en veulent. Et alors, les surveillants venaient, ils ouvraient la porte, et alors ils faisaient « Bonjour chef, ça va chef ?» Hein, si Salvatore avait été ici, il sait ce que ça veut dire chef, hein, c'est... Ça veut dire « Bonjour, surveillant, comment vas-tu hein? » Et le surveillant se dit « Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il prépare ?» Et alors, il apportait ce qu'il devait apporter. Et puis, « Au revoir, chef, merci, chef. » Il dit « Mais il se fout de moi, celui-là. Hein? » Puis la phrase suivante, « Monsieur Hôtel, sortez. Oui, chef, merci, chef. À tantôt, chef. » Il dit « Mais c'est pas possible. » Et quand je suis allé le revoir quelques temps après dans sa cellule, il m'a dit, Salvatore, tu ne peux pas t'imaginer la joie que j'ai de voir les surveillants quand ils arrivent. J'ai l'impression de voir des charbons ardents sur leur tête. Parce que lui avait été transformé, mais les surveillants ne savaient pas. Mais c'est cette transformation qui a fait qu'il pouvait être une nouvelle créature. Il était une nouvelle création devant Dieu. Et ça, c'est important. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Et quand Dieu est là, Jésus, dans Apocalypse 3:20, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Il peut frapper. Hein? Moi, j'avais un ami, c'est un ami missionnaire américain, et il venait à la maison et il frappait. Je lui avais dit « Mais quand tu viens, entre, la porte est ouverte. » Il m'a dit « Non, moi je veux être comme Jésus, je veux que tu m'ouvres la porte. » Parce qu'il y a un accueil qui est fait. Quand il entre comme ça, moi je suis peut-être assis dans mon fauteuil et il n'y a pas quelqu'un qui l'accueille. Tandis que quand on ouvre la porte, on est là pour dire « Entre Seigneur, viens ». Et le Seigneur ne vient pas tout seul, il vient avec tous les ingrédients pour faire, je ne sais pas moi si on aime le barbecue, hein, le Seigneur il vient avec tout ce qu'il faut pour transformer, nettoyer, remettre de l'ordre, peut-être reclouer les choses qui étaient déclouées, remettre du tapis là où il fallait. Jésus dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Même si on n'a rien dans les congélateurs, dans les frigos, dans les garde-manger, le Seigneur amène tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir une table bien pleine et nous réjouir. Le repas est quelque chose de convivial. Hein? Si c'est pour se rassembler autour d'une table et tirer la tête pour casser les assiettes, ça ne va pas. Hein? Jésus veut que notre relation avec lui soit une relation vitale. Que nous puissions lui dire, Seigneur, fais la transformation, enlève toute l'étoile d'araignée qu'il y a dans ma vie, transforme-moi. Et là, il n'y a pas d'âge. On peut dire, oui, mais vous savez, les plus âgés disent, oui, mais ça, c'est une affaire pour les jeunes. Hein? Et les jeunes, ils disent, mais, moi, je suis trop jeune, c'est pour les vieux. Hein? Alors, on ne sait jamais pour quel âge c'est. Mais la Bible est claire, elle dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Quelle transformation! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dieu met des rétroviseurs pour voir quelle vie on avait avant, mais il met un grand pare-brise devant nous, hein, pour que nous puissions avancer dans la vie. Ne négligeons pas ce que le Seigneur veut faire pour nous. Il y a tellement de choses que Dieu veut transformer dans notre vie. Il veut le faire pas à pas. Or, vous savez, moi je compare toujours la vie chrétienne à la vie d'un enfant. Hein. Un enfant, il naît d'abord. Il est entouré par la famille et puis il grandit. Il grandit et on peut commencer à voir quand il commence à faire ses dents. Vers un an et demi, deux ans, on commence à voir certains qui commencent un petit peu à dire « Ah, mais moi je pense que c'est comme ça, hein? Moi je pense que c'est comme ça. » Et c'est là qu'on a besoin de savoir qu'on est dans une famille. On est dans une famille. Je vais faire une petite illustration. J'aurais voulu avoir une photo, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire le petit montage. J'amène les groupes, je fais un peu de pub, hein, en Israël, j'amène les gens dans un endroit qui s'appelle Nazareth Village. Hein? Et ça ne fait pas longtemps que je vais là avec des groupes, mais c'est un endroit magnifique. C'est un endroit reconstitué, donc on a reconstitué une bergerie, une petite synagogue comme au temps de Jésus, donc une presse à vin, et ils ont plein de choses qu'ils ont reconstituées. Mais il y a aussi dans le parc des oliviers. Et alors j'ai été un peu étonné. Pourtant, des oliviers, moi qui viens de Sicile, j'en ai vu des, je ne vais pas dire des dizaines de milliers, mais certainement. Hein, dont au jardin des oliviers, il y en a un qui a plus de 2000 ans. Hein. Mais ce qui m'a impressionné au mois de mai, quand je suis allé, au mois de juillet, quand je suis allé, ici au début du mois, c'est de voir l'olivier de près. Et je me suis intéressé, je suis resté longtemps devant un olivier, c'est-à-dire je fais des fixations. Non, le guide m'a expliqué quelque chose. Un arbre, un olivier, n'est pas gros quand il est planté. Hein? Donc c'est un petit arbre. Et en dessous, il fait des rejetons. Hein? Des rejetons qui poussent et qui deviennent importants. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, eh bien, ils se collent au tronc. C'est impressionnant. Hein, ceux qui l'ont vu peuvent en témoigner. De voir cet olivier qui grossit. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à l'extérieur, ce sont toutes des boursouflures. Ce sont tous les rejetons qui sont venus se greffer, se coller sur le... pas greffer, se coller sur le tronc et qui montrent qu'ils sont des branches particulières. Ça m'a fait penser à l'Église. L'Église, elle est là, elle est autour de Christ, elle est soudée à Christ, mais chacun a son caractère. Et c'est cette image-là que j'ai retenue d'un olivier avec toutes ces
ces branches là qui sont collées, mais qui ont chacune leur particularité. Elles portent toutes des olives, hein, mais il peut arriver que certaines soient meilleures que les autres. Donc, nous sommes collés à Christ avec notre caractère. Et la sève de Christ vient nous alimenter. Ne disons pas « un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon » puisque nous sommes tous enfants du même Dieu. Nous sommes tous enfants du même Père. Nous avons tous Jésus comme Sauveur. Aidons-nous plutôt à le laisser devenir notre Seigneur pour qu'il puisse diriger notre vie et faire en sorte que tout ce que nous avons lui appartienne. Si nous avons, comme je l'ai dit au début, si nous avons manqué notre engagement vis-à-vis du Seigneur, peut-être pour certaines choses, nous avons négligé de laisser le Seigneur être le maître de notre vie. Mais il est toujours notre Sauveur. Ça, Dieu ne nous sépare pas. Il est notre Sauveur. Il veut être notre Sauveur. Mais le Seigneur, c'est celui qui est à la place de moi dans notre vie. Si le Seigneur est là, à la bonne place, il va gérer et diriger tout dans notre vie. Ce ne sont pas seulement des paroles. Ce sont des actes, des faits. Et plusieurs peuvent en témoigner de laisser Dieu diriger notre vie. Il va faire des merveilles. C'est ce que Dieu veut faire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une seule clinche à la porte. Et elle est de votre côté. Celui qui vient de l'extérieur n'a pas la possibilité d'ouvrir la porte. Mais celui qui est à l'intérieur peut l'ouvrir. Et il peut lui dire, « Ah, ben non, c'est toi, je ne veux pas. » Ou bien, « Entre. » Fais tout ce que tu dois faire dans ma vie et transforme-moi. Alors, pour ceux qui sont encore dans le doute de savoir est-ce que je vais accepter le Seigneur, est-ce que je vais me décider de nouveau, est-ce que je veux me réengager, oh, vous savez, je ne demande pas qu'on repasse par les eaux du baptême, hein, c'est pas cela, parce que quand ça a été fait, ça a été fait. Mais que notre engagement puisse être, Seigneur, je veux maintenant m'engager à te servir. Je l'ai peut-être fait d'une façon, vous savez, je pense souvent à ça, je me donne des fois des claques, hein, parce que je me dis, mais tu penses toujours pour les autres. Quelquefois, quand on chante des chants, on est à côté de la plaque, hein. Vous savez, on ne chante pas souvent, mais « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Même s'il fallait mourir, je veux te suivre. » J'imagine quelqu'un qui entre avec une mitraillette maintenant dans la salle et qui dit « Vous allez tous mourir. » Est-ce que là, on est en train de dire « Seigneur, je voulais mourir pour toi, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant, hein ?» Et pourtant, il y a des chrétiens à travers le monde qui sont kidnappés, qui sont tués pour leur foi parce qu'ils ont osé dire Jésus, Issa, est mon Sauveur. Jésus est le Messie. J'ai des amis qui sont juifs messianiques à Jérusalem et ils doivent presque dire leur témoignage un à un. Ils n'oseraient pas le faire publiquement parce qu'il y aurait des révolutions dans les rues. Pas par les Palestiniens, mais par les Juifs eux-mêmes. Parce que certains Juifs orthodoxes, hein, n'acceptent pas Jésus comme le Messie. Et pourtant, ils prient tous les jours pour le Messie. Et quand on leur parle de Jésus comme le Messie, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver. Que quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Prions. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as voulu nous rendre sensibles à ta présence dans notre vie. Aide-nous afin que nous puissions ouvrir bien grand la porte et te dire, Seigneur, viens, transforme-moi. Et si tu as déjà fait le ménage, Seigneur, continue à faire ton chemin avec moi. Seigneur, je voudrais te prier pour ceux ou celles qui voudraient renouveler leur engagement pour que tu puisses continuer à les aider à aller de l'avant, que tu puisses leur permettre de faire une décision qui est primordiale et nécessaire, que tu puisses leur montrer que toi, tu es le divin sauveur. Seigneur, nous t'avons chanté beaucoup de chants où on te mettait à l'honneur. Sois vraiment le premier dans notre vie. Permets, Seigneur, que tout ce que nous avons puisse t'appartenir. Merci parce que tu n'as pas hésité, toi, à prendre mon péché, notre péché, et tu l'as cloué sur la croix. Seigneur, merci parce que tu es ressuscité et tu es remonté dans ta gloire, d'où tu vas revenir. Seigneur, ne permets pas que nous puissions être condamnés par le manque de sérieux de notre part, mais que nous puissions t'accepter afin d'avoir la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que tes promesses ne sont pas vaines, parce que toi tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sois notre chemin, notre vérité et notre vie, Seigneur.